Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Voilà, donc Seigneur, dit-il, enseigne-nous à prier. Et là, nous sommes venus ce soir pour prier ensemble, prier les uns pour les autres, mais on a besoin que le Seigneur nous enseigne. Dans la vie chrétienne, on a besoin d'être enseigné dans toutes choses. On a besoin d'apprendre les choses de la vie chrétienne. On a besoin d'apprendre à étudier, d'apprendre à méditer, d'apprendre à mémoriser, mais aussi d'apprendre à prier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne trouve pas, je ne sais pas, en tout cas de mémoire, de passage où les disciples demandaient à Jésus, « Enseigne-nous à prêcher comme tu prêches. Hein? » Mais ils ont dit, « Enseigne-nous à prier. Hein? » Certainement, ils ont vu Jésus. Hein? Certainement, parce que la Bible dit ici, « Jésus priait un jour. » Et quand on regarde la vie de prière de Jésus, on voit qu'elle était dense. Hein? On trouve Jésus priant à beaucoup, beaucoup de situations. Parfois, il dit même passant la nuit à prier. Il voit Jésus prier, puis un des disciples, on ne sait pas lequel, ça ne nous est pas dit, mais un des disciples dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il ressent ce besoin, peut-être, de prier comme Jésus prie. Et puis, ils se sont souvenus que Jean-Baptiste aussi hein, a enseigné à ses disciples comment prier. Donc, comment prier, c'est quelque chose qui s'enseigne. C'est une manière ici de reconnaître que nous avons des manques dans ce domaine. Alors, parfois, on peut toujours dire, bon, je prie, je fais ceci, je fais cela, mais on doit être honnête et reconnaître que nous avons des manques dans ce domaine et que nous avons besoin d'être enseignés. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? Comment est-ce qu'il va les enseigner? Alors, il les enseigner par ces paroles que nous appelons souvent le quoi? On appelle ça comment? Le Notre Père. Hein, quand on se souvient comment c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, hein, il dit Notre Père, d'accord? Et puis les catholiques, tout le monde connaît ça. Hein, prenez les catholiques qui connaissent le Notre Père. Dans le milieu évangélique, on connaît le Notre Père. Qui c'est qui le connaît par cœur? Qui connaît par cœur? Hein? D'accord, on peut essayer de le réciter, alors Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, je crois qu'il y a, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ça dépend parfois, c'est dit dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Très bien, vous connaissez bien. Hein? Si vous ne vous rappelez pas, bien, vous révisez hein, à la maison. Matthieu, chapitre... Combien? 6. Hein, Matthieu chapitre 6. Alors c'est écrit un petit peu différemment ici. Mais voilà en tout cas ce que Jésus enseigne dans sa prière. Qu'est-ce qu'il montre ici? Il montre qu'il, premièrement, le premier enseignement sur la prière, c'est qu'il faut prier. D'accord? Parfois on peut lire des livres sur la prière. Je me souviens, j'ai des livres chez moi sur la prière. Hein. Vous en avez certainement aussi chez vous sur la prière. Mais parfois, on peut avoir beaucoup de livres sur la prière. On peut lire beaucoup de choses sur la prière sans prier. Et Jésus ne commence pas en disant, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il dit ? Sa première phrase, c'est quoi ? Il leur dit quoi ? Quand vous priez. Point. Quand vous priez. Ça veut dire, vous priez. Commencez par prier. D'accord ? Pour savoir comment il faut prier, il faut aussi commencer par prier. Il y en a besoin de prier. C'est quelque chose que l'on fait peut-être le moins possible. Hein. C'est quelque chose, voilà. Hein. On le dit souvent, hein, les réunions de prière sont les réunions qui sont les plus désertes. Voilà. Les plus désertes. Hein, et peut-être notre vie, dans notre vie, voilà, le temps de prière est le temps le plus désert. C'est le temps que l'on va facilement évacuer. Pourquoi ? Plus que la lecture. Pourquoi ? Parce que la lecture, on sait qu'on doit lire. On prend un chapitre, par exemple. Eh bien, on se dit, au moins, on va aller jusqu'au bout du chapitre, hein, à lire. Ou bien, si on lit deux chapitres ou trois chapitres, on sait qu'il faut arriver jusqu'au bout avant de s'arrêter. Tandis que la prière, hein, si le téléphone sonne ou s'il y a autre chose, c'est difficile de se discipliner à la prière. C'est très, très difficile. Et donc, Jésus dit, voilà, il faut prier. Il faut prier. Il y a beaucoup de paraboles, Luc chapitre 18, où il y a une parabole où il dit qu'il montre comment il faut prier et ne point se relâcher. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici ? On va aller vite, quand même un peu, sans rester longtemps sur les choses, mais il dit, voilà ce que vous devez dire dans vos prières. Premièrement, il faut prier, mais qu'est-ce que vous devez dire ? Souvent, on ne sait pas ce qu'on doit dire aux prières. Mais quand on est un enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur de ce qu'il faut dire. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Hein ? Il est là pour nous aider dans nos prières. Mais la parole, l'enseignement de Jésus aussi nous aide dans nos prières. Premièrement, on pourrait placer, regarder dans les versets qui suivent et diviser en deux grandes catégories, ce que Jésus dit dans le contenu de la prière. Est-ce que vous voyez quelles sont les deux grandes catégories ? C'est assez facile à voir. Quelle est la première ? Oui, on pourrait dire que c'est la louange. Il dit Père, d'accord ? Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. De qui ça parle ici ? De Dieu. Père, de Dieu le Père, ok, Dieu. Et puis, verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas dans la tentation. » De qui ça parle ? De nous. Dieu et nous. On peut avoir tendance à faire l'inverse, à être tout de suite avec nos besoins. Il dit, premièrement, notre Père, pareil dans Matthieu 6, ici il dit Père, Père, que ton nom soit sanctifié. Alors, Dieu, on pourrait dire ici, Dieu en premier lieu, Dieu d'abord. Et qu'est-ce qu'il dit concernant Dieu ? De quoi il parle concernant Dieu ? On a qu'à lire, hein, c'est juste écrit devant nos yeux. Qu'est-ce qu'il parle de quoi ? Ton nom. Ensuite, ton règne. Et puis, là, il ne le dit pas, mais dans l'évangile de Matthieu, il parle de la volonté. Hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est quoi le nom de Dieu ? Après tout, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est ce que vous devez prier. Il faut qu'on comprenne. On recherche, on se pose la question, mais c'est quoi le nom de Dieu ? Je vous demande, c'est quoi mon nom ? Vous allez dire Albert. C'est quoi le nom de Dieu ? Ce qui le définit, oui, c'est ça, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que ton nom soit sanctifié ? Est-ce que le nom de Dieu est saint ? Oui. Et quand je prie que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que je prie ? Je cherche à dire quoi ? Ici. Oui, qu'il soit honoré. Alors, qu'est-ce qui doit être honoré ? Son nom, mais c'est quoi son nom ? Oui. Oui. Ah ouais. Quand Dieu se définit, hein, il se définit par, il se révèle par son nom. Rappelez aux Israélites, je crois que Moïse avait dit, Vous direz, je suis l'Éternel, c'est ainsi que je... Voilà, il dit, ça veut dire quoi, je suis l'Éternel? Je suis celui qui est tout suffisant. J'existe par moi-même. Je suis le premier et le dernier. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu éternel. C'est ce que ça veut dire. Hein? Il dit ça au peuple. Quand il dit, quand il donne les 10 commandements, il dit... avant de dire, tu ne prendras... C'est quoi le premier? Je suis d'abord, avant de dire ça, il dit quoi? Je suis l'Éternel. Voilà, et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, il parle d'abord de ce qu'il est, éternel dans son éternité. Et puis, ensuite, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est-à-dire que tu... Et quand il emploie le mot Dieu, il dit qu'il est digne d'adoration et que c'est lui seul qui doit être adoré. D'accord? Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il parle de celui qui doit être adoré. On ne doit pas commettre l'idolâtrie parce que par ce qu'il est, il est le seul qui doit recevoir l'adoration. Ça, c'est une vérité. Et quand je prie que ton nom soit sanctifié, je dis que ces réalités-là doivent être honorées et glorifiées par tous les êtres humains. Et comme Jérémie a dit, hein, je prie que ce soit reconnu, que les hommes le reconnaissent et que Dieu soit glorifié en tant que tel, en tant de manière conforme à ce qu'il a révélé de lui-même. Hein, que ton nom soit sanctifié, que ses attributs soient reconnus et glorifiés. À un moment dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 28, et Jésus prie et puis il dit, Père, glorifie ton nom. Et donc, c'est un peu ce que nous devons prier. Quand nous le demandons, ne disons pas juste, glorifie ton nom, parce que c'est quelque chose qui nous... que ton nom soit sanctifié, ça nous échappe. Jésus ne dit pas simplement qu'il faut répéter mot pour mot ce qui est dit là, mais il dit que ce que l'on prie, ça doit avoir ce sens-là. Donc, on peut penser au nom de Dieu, comment il se révèle, l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu qui pourvoit, etc. Et prier qu'il soit reconnu comme cela, qu'il soit exalté comme cela. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de ça, mais bon, on n'a pas le temps de le faire ce soir. Ensuite, il parle de son règne. Il dit, nous devons que ton règne vienne. Donc, on doit aussi soupirer après après le fait qu'il son retour et le fait qu'il règne. Jésus va revenir, il va régner. Et quand on pense à tous nos gouvernements, tous nos États, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai jeté encore, enfin bref, tous nos États, toutes les dictatures, les démocraties, les autocraties, les monarchies qui existent, et tout ça, c'est imparfait. Mais on sait que Dieu va venir, qu'il va établir le règne parfait. Et quand on dit quand ton règne vienne, on soupire après ce règne de paix, de gloire, glorieux de Dieu. Et puis aussi que ta volonté soit faite. Alors le texte dit sur la terre comme dans le ciel. On veut que toute sa loi soit respectée. Ses commandements sont au-dessus de tous les autres, hein, tous les autres commandements. On est en train de décrire une vérité fondamentale là, et il y a une question qui parle de la loi de Dieu, et on dit que la foi consiste à reconnaître que sa loi est au-dessus, infiniment supérieure à tous les autres écrits qu'on peut trouver dans le monde. Il est au-dessus de tout ça. Je me souviens d'un quelqu'un qui avait dit, un homme politique qui a dit, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui n'est pas capable de dire que la loi de la République est au-dessus de la loi de la foi. Mais un chrétien ne peut pas dire ça. Parce que la loi de Dieu est au-dessus de toute loi. Est au-dessus de toute loi. Et il faut le dire. Et c'est cette loi qui nous dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Et heureusement qu'elle est au-dessus de la loi, hein, de toute loi. Hein. Elle nous dit même qu'il faut nous soumettre aux autorités. Et nous nous soumettons aux autorités parce que la loi de Dieu nous dit qu'il faut le faire. Pas simplement parce que les autorités disent qu'il faut le faire, mais parce que la loi de Dieu qui est au-dessus de tout nous dit que nous devons le faire. Et donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ce que nous prions. Et puis, rapidement, deuxième partie, eh bien, il dit, vous priez aussi pour vos besoins. Alors, quels sont les besoins ici? Trois domaines. Est-ce que vous pouvez les voir, les trois domaines, à peu près, ici, dans les versets 3 et 4? Le premier. Alors, on pourrait dire le pain. Deuxièmement, le pardon. Et troisièmement, là, alors il dit ne nous induis pas dans la tentation. Et dans Matthieu, il dit mais délivre-nous du mal. Donc, on pourrait parler de la protection, on pourrait dire. Hein. On pourrait dire ça ici. Hein. Le pain, les trois P. Le pain, le pardon et la protection. Alors, le pain. Le pain, c'est, je pense, on peut prendre ça ici comme une métaphore qui décrit quoi? Tous les besoins qu'on en a pour notre corps. Hein. Jésus enseigne donc que la prière ici, hein, c'est l'expression de notre prise de conscience qu'on a besoin de Dieu, qu'on dépend de lui pour tous les besoins de notre corps. Quand on dit « donne-nous notre pain », ce n'est pas le travail qui nous donne notre pain. Même si Dieu dit « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », ce n'est pas le travail qui nous donne notre pain. Ce n'est pas le niveau de salaire qui nous donne notre pain. N'est-ce pas ? Ce n'est pas la santé qui nous donne notre pain. Tout ça est certainement nécessaire dans le fait d'avoir le pain, mais au-dessus de tout ça, c'est Dieu qui donne. Et il faut qu'on soit conscient de tout cela. Dieu, c'est lui qui nous donne. Et c'est à lui qu'il faut demander de nous donner les choses. Après, les moyens par lesquels il les donne sont bien sûr différents. Mais c'est lui qui donne. Il parle aussi du, je saute, hein, alors on peut penser aussi pour le pain spirituel et pour toutes ces choses, hein, pour tous les aspects de la vie, hein, ici. Et puis deuxièmement, il parle du pardon. Hein, deuxième besoin, du pardon. C'est intéressant parce que bon, enseigne-nous à prier. Si vous enseignez à quelqu'un à prier, vous lui direz peut-être, bon, tu penses à Dieu d'abord, après tu penses à tes besoins, etc. Mais peut-être on n'aurait pas inclus le pardon. Ouais. C'est intéressant de trouver le pardon ici comme contenu. Jésus enseigne que c'est au même titre que vous avez besoin, que c'est vital, le pain est vital pour le corps, bien le pardon est aussi un besoin pour lequel vous devez prier. Et qu'est-ce que cela évoque quand on parle du pardon ici? Pourquoi le pardon? Qu'est-ce que cela apporte ici de parler du pardon? Comment vous comprenez ça? Oui, alors, on ne sait pas de définir, c'est vrai, ça veut dire ça, mais pas de définir le pardon, mais qu'est-ce que cela, je veux dire, suppose par rapport à nous, je le dis bien ici, hein, quand on prie pour le pardon, qu'est-ce que cela évoque dans notre esprit? Dans quel cas on a besoin de se pardonner? Parce qu'on est des pécheurs et que l'on pêche les uns contre les autres et contre Dieu. Donc cela nous rappelle, quand on prie, on ne vient pas devant le Seigneur avec, comme si, voilà, on est, je suis un chrétien. Non, on se souvient qu'on est des pécheurs qui ont besoin de pardon. Et que dans nos relations, nous avons besoin aussi de nous pardonner les uns les autres. Et on s'approche de Dieu, non pas sur la base d'un quelconque mérite, mais en nous reconnaissant tels que nous sommes, des pécheurs qui ont besoin d'un pardon. Voilà notre plus grand besoin, c'est du pardon miséricordieux de Dieu. Okay. Et c'est pour ça qu'il dit, on s'approche en disant, pardonne-nous nos péchés. C'est ça qui est écrit ici, hein. Pardonne-nous nos péchés. Donc on vient avec quoi devant le Seigneur? Avec aucun mérite, mais avec nos péchés. On est des pécheurs. Et on a besoin d'être pardonnés. Et en Jésus-Christ, heureusement, nous sommes pardonnés. Ici. Et on s'approche donc sur la base de sa miséricorde et de son pardon. Et puis aussi, on ne peut pas s'attendre, ça nous rappelle qu'on ne peut pas s'attendre à être pardonner si nous, on refuse de pardonner aux autres. Parce que dans Matthieu, il dit « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ici, il dit pareil, il dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Et donc, c'est-à-dire que la prière demande que les relations, autant que possible, soient réglées. Les relations entre les uns et les autres. Si volontairement je maintiens des conflits, je ne peux pas m'attendre à ce que ma prière soit exaucée. D'accord ? Pour vous rappeler, rappelez-vous que l'apôtre Pierre disait la même chose, même dans le couple. L'apôtre Pierre dit la même chose, hein, dans 1 Pierre chapitre 3. Il dit au mari d'avoir de la sagesse, je crois qu'il dit comme ça, hein, dans leur conduite avec leur épouse. Pourquoi ? Il dit pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il dit, quand ça ne va pas entre madame et moi, et c'est un conflit que je refuse de régler, je refuse de demander pardon, etc., il dit qu'il y a un mur qui se dresse et ma prière ne trouve pas d'accès. Et c'est pareil dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'il dit, pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc quand on s'approche de lui, on doit se souvenir, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille régler ça. Seigneur, aide-moi à le faire. Et on se prépare hein, dans ce sens-là. Et puis dernièrement aussi, hein, on a dit la protection, protection spirituelle. Il dit, préserve-nous et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous avons besoin voilà, que Dieu nous protège. Les tentations sont là, sont toujours là. On a besoin que le Seigneur nous garde de cela, nous garde de tomber. On est tous des pécheurs et on est susceptible toujours de pécher encore. Et on a besoin d'être délivré du mal et du malin. Dans Jean chapitre 17 et au verset 15, on peut lire ça rapidement, Jean 17 verset 15, Jésus dans sa prière, il prie dans ce sens, Jean 17, 15, il dit, oh, je ne l'ai pas de mémoire, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, du mal ou du malin. Et puis en Romains 12, 21, vous inversez, 1, 2, 2, 1, hein. Romains 12, 21, c'est facile, dernier verset de Romains 12, qu'est-ce qu'il dit ? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Hein. Et c'est vrai que le mal frappe à notre porte parfois et on peut se laisser envahir par le mal, on peut réagir d'une manière qui est mal, c'est-à-dire on se laisse vaincre par le mal. Il dit non, tu surmontes le mal en faisant le bien. Tu surmontes le mal par le bien. Alors tout ça, ça nous montre une chose, chers frères et sœurs, c'est que on a besoin de prier, mais pas tant pour faire connaître notre besoin à Dieu, parce qu'il le connaît. Hein. Alors, comme c'est écrit là, il dit, voilà, mais on honore Dieu et on prie, il demande de nous venir en aide, mais cela nous apprend plus notre dépendance de lui. Et quelqu'un avait dit ça, comme ça je trouve ça très juste, il dit que la prière n'est pas pour faire connaître nos besoins, notre besoin à Dieu, mais pour nous faire connaître notre besoin de Dieu. La prière ne consiste pas simplement à faire connaître à Dieu notre besoin, d'accord ? Pas de faire connaître notre besoin à Dieu, simplement, mais de nous faire connaître à nous notre propre besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui dans tous les aspects de notre vie. Et la prière nous plonge dans cette réalité-là. Besoin de miséricorde, besoin de pardon, besoin de protection, besoin de le reconnaître tel qu'il est, de le glorifier tel qu'il est, de le louer pour ce qu'il est, tel qu'il s'est révélé dans sa parole. Donc le Seigneur nous aide ce soir hein, à considérer ces choses et puis à prier d'une manière qui le glorifie, comme il nous l'enseigne dans sa parole. Alors on va prendre quelques sujets de prière.